Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo avec vous. Ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Comme chaque semaine, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Jules Valentin Ngwe depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, est avec nous. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Yacouba, bienvenue à Kinshasa.
Avec nous aussi Élisée Nkwatine depuis Boyukon au Bénin. Élisée, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bienvenue au Bénin.
Amine Birouk est en direct de Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Vous le savez, le Raja de Casablanca a arraché la Super Coupe d'Afrique. Les Verts l'ont fait en battant l'Espérance de Tunis 2-1 à Doha au Qatar. C'est la première fois que la Super Coupe se joue hors du continent. Alors Amine, vous étiez sur place à Doha au Qatar donc et vous avez vécu tout cela de près.
Tout d'abord, il faut dire que l'organisation était parfaite. Je dirais la complémentarité entre le comité d'organisation de la Coupe du Monde 2022 et là, les éléments de la CAF a été bien évidemment très clair. On a vu d'emblée que le comité d'organisation local est en train de faire des essais au fur et à mesure des rencontres internationales de prestige qui se déroulent sur le territoire qatari. Autant dire qu'ils essaient de se roder à 3 ans et quelques mois de l'édition 2022 de la Coupe du Monde. Pour ce qui est de la rencontre, on a vu une équipe de l'Espérance de Tunis avec un peu d'excès de confiance qui lui a joué un très mauvais tour face à une équipe du Raja visiblement plus concentrée, plus impliquée dans la rencontre. Et après 10 premières minutes où il y a eu un round d'observation, c'est le Raja de Casablanca qui a commencé à accélérer, qui a fini par frapper en première à la 22e minute par Abdillah Hafedi. Il y a eu ensuite un barreau d'honneur de la part des Tunisiens en fin de première mi-temps et puis un peu plus de réalisme de leur part en début de seconde mi-temps puisqu'ils sont parvenus à égaliser par le remplaçant, l'international algérien Blaili, 51e minute. Puis il y a eu la réaction de l'équipe de Raja de Casablanca qui a pu faire pencher la balance en sa faveur sur une belle talonnade de son capitaine Badr Benoun. A signalé une agression qui n'a pas été sanctionnée par l'arbitre de la rencontre, M. Tessema, sur Abdillah Hafedi, qui risque de perdre la CAN puisqu'il sera out jusqu'à la fin de la saison pour une rupture des ligaments croisés. Et puis, a signalé l'excellent état d'esprit des supporters qui ont fait le déplacement, que ce soit la diaspora tunisienne au Maroc, une résidente au Qatar, ou les supporters qui ont fait le déplacement de Tunis ou de Casablanca, un excellent état d'esprit pour cette première délocalisée hors de notre continent, en attendant peut-être d'autres supercoupes avec d'autres formules, peut-être lors des prochaines éditions, puisqu'il semblerait que l'on se dirige vers tout simplement la suppression de l'avantage qui avait été accordé d'emblée au club vainqueur de la Champions League, qui avait le privilège de recevoir chez lui lors de cette rencontre qui se déroulait en une seule manche.
Alors, on reste avec vous, Amine. Alors, l'élimination du Raja pour tenant du titre a été la grosse déception en Coupe CAF cette année. Est-ce que la mayonnaise est en train de prendre sous les ordres de Patrice Carteron, qui avait quand même demandé du temps?
Patrice Carteron avait demandé du temps, surtout il n'avait pas eu le temps, puisque le calendrier démentiel du Raja de Casablanca, qui a disputé à Doha son 50e match officiel, ne lui permettait pas de mettre les choses en place, de pouvoir travailler sur la durée. Avec des matchs tous les mercredis, tous les samedis ou tous les dimanches, la période de préparation tactique était moindre. Aujourd'hui, il a eu 2 semaines franches pour pouvoir préparer son coup, pour pouvoir avoir toutes ses troupes à sa disposition. Il n'a eu ni blessé ni malade. Il a pu emmener les 22 meilleurs éléments à son avis. Et cette préparation, l'équipe du Raja est arrivée 24 heures avant les Tunisiens de l'Espérance à Doha. Ils se sont préparés à huis clos, contrairement aux Tunisiens qui ont ouvert les séances d'entraînement, qui ont ouvert leur résidence aux supporters. Ils ont eu ce brin de sérénité. Et visiblement, les 3 derniers matchs du Raja sont des matchs références. Il y a une victoire en championnat local face à la Renaissance de Berkane 7-3. Il y a eu ce succès malgré l'élimination face à Otto Odoyo 4-1. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est ce deuxième sacre cette saison après la Coupe de la CAF. Ce titre remporté, ce n'est que la deuxième supercoupe de l'histoire du Raja de Casablanca. Le 8e sacre international de ce club, qui a son actif 3 Ligues des Champions, 2 Coupes de la CAF, 2 Supercoupes d'Afrique et une Coupe afro-asiatique, ce qui le place parmi les 20 clubs les plus titrés du monde.
Merci bien. Amine, alors Thierry, Amine l'évoquait tout à l'heure, la CAF tend à, on va dire, à supprimer simplement cet avantage qui voudrait que le club vainqueur de la Ligue des Champions accueille la Supercoupe qui s'est tenue cette fois-ci pour la première fois hors du continent. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que cela se répète?
Et bien évidemment, on souhaite que cela se répète et je salue cette décision de la Confédération africaine de football. Tout d'abord, supprimer cet avantage automatique qu'on accordait aux vainqueurs de la Champions League, quoique étant la meilleure des compétitions africaines interclubs, mais aussi le fait d'exporter le football africain à l'étranger. Là, c'est le Qatar qui a voulu se roder un tout petit peu, comme Amine Birouk l'évoquait tout à l'heure, lui qui va organiser en 2022 la Coupe du Monde. Mais c'est aujourd'hui... dans les habitudes, de plus en plus, la super coupe de tel pays, de la France, qui va se jouer aux États-Unis, etc. Et bref, c'est quelque chose de bien que cela soit organisé au Qatar. Aujourd'hui, demain, on aimerait également que la Super Coupe d'Afrique se joue, pourquoi pas, sur d'autres continents où il y a également des amoureux du football, parce que nous pratiquons un football de qualité sur le continent africain, malgré toutes les difficultés qui entourent parfois l'organisation de ce football dans certains pays ou dans certains coins de notre continent. Donc oui, cet avantage était injuste. Moi, je le déplorais toujours dans des discussions avec des amis. Il aurait été souhaitable, et c'est ce qui a été fait cette fois-ci, qu'une super coupe comme celle-là se joue sur terrain neutre, comme ça se fait un peu partout en Europe notamment. Et donc c'est une bonne chose. D'abord que la CAF puisse supprimer cet avantage ou ce privilège accordé aux vainqueurs de la Champions League, mais aussi le fait que le football africain s'exporte à la faveur de ces genres de matchs de prestige, c'est une bonne chose.
Merci Thierry. Alors sans transition, nous parlons des coupes interclubs qui se poursuivent le week-end à venir avec les oppositions en quart de finale en Ligue des Champions. Alors Jules, le choc entre les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns et les Égyptiens d'Al Ahly retiendra sans doute toutes les attentions. Les Sud-Africains recevront pour le match aller, je rappelle.
Oui, bien sûr, c'est une finale avant la lettre, c'est certain. Et donc nous avons affaire à des footballs bien organisé en Afrique. L'Afrique australe, à l'heure actuelle, est en train de nous donner une leçon de gestion professionnelle du football, et en particulier l'Afrique du Sud. Et pour l'Égypte, c'est un des foyers les plus, disons que les mieux organisés de football sur le continent depuis pratiquement près d'un siècle. Donc là, on retrouve deux grands mastodontes qui se rencontrent à ce niveau de la compétition, avec des styles aussi contraires. Les Sud-Africains ont épousé plutôt un jeu à la sud-américaine, à la brésilienne, tandis que Al Ahly développe son jeu un peu comme le Bayern de Munich, c'est-à-dire une équipe européenne typique. Donc nous aurons une opposition de style, et il n'est pas erroné de dire que là, on a réellement une finale avant la lettre.
Une finale donc avant la lettre. Le vainqueur de cette double confrontation sera opposé en demi-finale, soit au tout-puissant Mazembe, soit au Tanzanien de Simba FC, qui s'affrontent en quart. Alors Thierry, je reviens à vous. Ce sera peut-être l'occasion pour le TP Mazembe de venger un vieux club qui a perdu lors de la dernière journée des phases de groupe face à cette même formation dont il faudra se méfier.
Absolument. C'est le tout premier commentaire qui a circuler ici dans les rues de Kinshasa et même de Lubumbashi, on va dire dans les salons des passionnés du football après ce tirage au sort. Mazembe a donc l'occasion de venger l'association sportive V-Club qui a perdu face à cette formation de Simba et qui s'est donc fait éliminer à l'étape de huitième de finale de la Champions League de la CAF. Mais Mazembe qui a connu une piqûre de rappel ce week-end en championnat après avoir perdu le samedi face à son éternel rival à Lubumbashi, le FC Saint-Éloi Lupopo. Cela faisait 11 ans depuis que Mazembe n'avait plus perdu le derby louchois face au FC Saint-Éloi Lupopo. Les Corbons ont perdu 1-0. C'est des bons augures pour leur rappeler qu'ils doivent se remettre en cause et surtout bien préparer ce quart de finale face au Simba FC. Certainement, les supporters de l'ASV Club seront également derrière Mazembe. non pas parce que c'est le seul club congolais qui reste en course en Champions League, mais surtout, comme vous l'avez dit, pour se venger de l'association sportive des clubs.
Alors, le Oroya de la Guinée jouera contre le tenant du titre, le Wydad Athletic Club de Casablanca du Maroc. Alors, Élysée, les Guinéens auront fort à faire, on va dire, face au tenant du titre.
Non seulement contre le Wydad, mais il faut dire que les Guinéens ont souvent eu des difficultés contre les clubs maghrébins, en témoignant les confrontations directes que le club de Matam a eu avec les clubs venus du Nord, il faut le dire. Déjà, dans les matchs de poule, on a vu Oroya impuissant face justement à l'aspirant de Tunis. Même l'année dernière, c'est à cette étape-là que le club de Conakry s'est fait éliminer justement par un club du Maghreb. Donc, c'est dit que ça s'annonce très difficile. C'est vrai que les Guinéens vont recevoir le match aller à domicile en tentant de se déplacer du côté de Casablanca pour affronter l'équipe entraînée par Fawzi Benzati, qui est de retour à la maison. Donc, c'est dire que ça s'annonce très difficile pour les Guinéens, encore que le nouvel entraîneur qui vient de débarquer suite à l'élection de l'autre Patrice Neveu, bien le nouvel entraîneur Didier Gomez Darussa vient de signer sa première défaite en championnat, c'était samedi dernier, donc battu 1-0, même à domicile, contre l'AB Sport de Bouna. Donc c'est dire que ça s'annonce un peu compliqué. C'est une équipe qui n'est pas totalement en forme, mais comme il s'agit de la Ligue des Champions, on peut voir une autre image de cette équipe, mais face au Wydad de Casablanca, il sera difficile, vraiment difficile pour les Yacouba.
Alors Amine, le WAC devra bien négocier son déplacement à Conakry pour le match aller, même si d'ores et déjà, il part favori sur papier en tout cas.
Le WAC qui n'a pas bien négocié tous ses déplacements en phase de groupe. Il faut rappeler que l'équipe s'est inclinée sur 2 matchs sur 3, que ce soit chez les Mamelodi Sundowns ou contre la SEC d'Abidjan. Donc la parole est à la méfiance, le mot d'ordre est la mobilisation. Et surtout, il y a une dynamique positive dans cette équipe qui est en train de se rapprocher de son 20e titre de champion du Maroc. Aujourd'hui, ils ont battu l'équipe de l'OCMA sur le score de 6-1. Ils ont emmagasiné le plein de confiance avant de voyager dès demain. Il faut dire que les prévisions météo du côté de Conakry, ce sont les pluies de saisonnières et donc visiblement le travail a été axé tout au long de cette quinzaine où il y a eu le break des compétitions FIFA sur la condition physique. L'entraîneur Fawzi Benzati va disposer de l'intégralité de ses troupes et pourra aligner la meilleure équipe possible, mais méfiance, car ce Wydad, s'il est percutant à domicile devant ses supporters, que ce soit Casablanca ou Rabat, a rarement réussi à ramener de bons résultats de ses derniers déplacements. L'année dernière, ils avaient réussi tout de même à faire un match nul en phase de groupe contre l'équipe de Oroya but partout avant de l'emporter 2-0. Ce précédent, il va falloir que les joueurs le gardent en tête, car cette équipe guinéenne est en progrès. Il va falloir visiblement redoubler d'efforts pour pouvoir éviter la déconvenue de la saison dernière où, tenant du titre, ils avaient été éliminés par Sétif après une défaite en Algérie 1-0 et un match nul au match retour 0-0 au Maroc.
Alors Amine, je reste avec vous. Vous qui avez vu l'expérience sportive de Tunis évoluer du côté de Doha. Alors, l'Espérance est championne en titre, mais devra quand même faire beaucoup attention face à cette surprenante équipe du CS Constantine d'Algérie en quart de finale.
Une équipe de Constantine qui propose un football plaisant. L'Espérance de Tunis a perdu face au Raja de Casablanca la première manche de ses 2 matchs au Qatar. Elle a remporté aujourd'hui la Supercoupe de Tunisie au détriment de Bizerte. C'est une équipe qui a enchaîné Coupe de Tunisie, sortie avec les équipes nationales de la plupart de ses joueurs et notamment match amical face à l'Algérie, arrivée au Qatar mardi, match au Qatar vendredi, rematch au Qatar lundi et puis déplacement en Algérie pour affronter Constantine. Il va falloir qu'il digère toutes ses péripéties. Le club tunisien possède des atouts. Il va falloir qu'il récupère son taulier en défense Khalil Chemem qui lui avait manqué lors du match de la Supercoupe et surtout que l'entraîneur fasse confiance à Blaili qui a été de loin l'élément le plus percutant. Il est rentré en deuxième période. Il a changé la dynamique d'une équipe qui était trop confiante face au Raja de Casablanca et qui a semblé se liquéfier au fur et à mesure de la rencontre, notamment après le deuxième but du club marocain. Aujourd'hui, ils ont la mission de remporter un triplé historique, l'année de leur centenaire, Coupe, Championnat et Champions League africaine. Ce serait véritablement le meilleur cadeau pour les supporters de ce club qui a été fondé en 1919.
C'est tout le mal qu'on leur souhaite. En Coupe de la Confédération, Jules, le Nkana de la Zambie recevra le CX Sfaxien de la Tunisie. Un gros match tout de même.
Oui,
ça, c'est une belle affiche, et surtout pour les nostalgiques des années 70. Le Canada qui nous revient, une équipe très dynamique à l'époque, et qui revient au premier plan, a l'occasion ainsi de passer un palier supérieur. Face à face, un habitué des rencontres nécessairement pour soit pour les athlétiques, soit pour les trophées, notamment dans cette deuxième compétition africaine. Donc, nous aurons un match particulièrement ouvert où, ma foi, Canada n'a rien à perdre. C'est plutôt à Sfax de prouver sa supériorité dans le domaine.
Alors, Élisée, l'espérant, l'étoile pardon, sportive du Sahel sera opposée à Al Hilal du Soudan. Une rencontre quand même équilibrée?
Qui sera équilibrée non seulement, mais deux équipes qui ne se retrouvent pas hein, pour le moment en championnat. C'est vrai que les Soudanais ont un petit avantage, hein, c'est que lors de leur rencontre en championnat, eh bien, ça s'est bien passé. Al Hilal d'Omdurman, hein, qui peine depuis près de trois saisons déjà en Ligue des en Coupe africaine des clubs, j'allais dire, sera face à une équipe d'étoiles sportives du Sahel qui, depuis un certain moment, ne se retrouve pas du tout. Mais il faut le dire, hein, puisque quand vous jouez face à des clubs venus du Maghreb, il faut faire très attention, puisque il y a l'expérience qu'il faut. Ce sera un match équilibré, vu que cette déformation se rencontre souvent. Donc, on va rester confiant hein, pour voir que c'est ce qui va se passer. Mais attention, l'étoile du Sahel qui joue à domicile pourra quand même prendre l'avantage et essayer de faire quelque chose du côté de Khartoum.
Alors, Amine, il y a deux affiches dans lesquelles on retrouve deux clubs marocains. Le Hassani Agadir qui joue contre les Amalek d'Égypte, c'est lourd. Mais on a aussi l'autre club hein, marocain, la Renaissance Sportive de Berkane qui monte en puissance hein, et qui sera opposé au Kenya de Gormaya. Du coup, voyez-vous déjà hein, peut-être deux places en demi pour les Marocains?
En tout cas, un club semble favori, c'est la Renaissance Sportive de Berkane qui affronte Gormaya avec un déplacement à Nairobi à gérer cette semaine avant de recevoir au match retour. Il faut dire que Berkane a été s'est classé en quart de finale ou s'est qualifié pour les quarts de finale la saison dernière. Ils ont commencé à goûter au plaisir de disputer les compétitions africaines et comme l'appétit est venu en mangeant, aujourd'hui ils sont capables de réussir un exploit. Leur parcours en championnat est en dents de scie, il est en deçà des espérances et donc ils vont reporter toute leur énergie sur ce déplacement face à Gormaya qui a réussi quand même la prouesse de sortir d'un groupe où il y avait le Zamalek avec en battant notamment les Égyptiens sur le score de 4-2 à Nairobi. Il faudra se méfier, il faudra aussi gérer les conditions d'altitude puisque nous sommes au Kenya donc à près de 1500 ou 2000 d'altitude, un effort que les joueurs de Berkane vont devoir faire avant de recevoir match retour. La mission est beaucoup plus compliquée pour le Hassania d'Agadir qui dispute son baptême de feu en Coupe de la CAF, qui atteint ce niveau de la compétition pour la première fois de son histoire parce que c'est l'ogre égyptien qui est en face, c'est le Zamalek, avec une armada de joueurs confirmés, expérimentés, internationaux égyptiens ou étrangers, et d'ailleurs il y aura paradoxalement deux internationaux marocains qui seront en face du Hassania d'Agadir, notamment Khalid Boutayeb, qui avait marqué lors de la dernière Coupe du Monde face à l'Espagne. Match aller à Agadir, ce sera beaucoup plus compliqué puisque la manche retour se déroulera au Caire face à une équipe qui a envie de retrouver son lustre africain qui domine de la tête et des épaules le championnat égyptien. Pour preuve, le match nul lors du dernier derby face à l'Ali 0-0 qui permet à Ozamalek de continuer son numéro en solitaire en tête du championnat égyptien.
Vous suivez Sporama, suivez OA Afrique, direction le Gabon pour parler de ce que vous avez suivi la semaine dernière. L'équipe nationale de football a été dissoute. L'annonce a été faite par le ministre des Sports qui a aussi demandé à la FEGAFOOT de virer l'entraîneur Daniel Cousin et son staff. Écoutons Alain-Claude Bilibi-Nzé.
Mais on a pensé qu'il fallait confier à la FEGAFOOT la mission de mettre un terme au contrat du sélectionneur actuel et préparer un appel à candidature ouvert aux techniciens gabonais et étrangers. Le nouveau sélectionneur national devra être connu dans les 60 jours maximum. Deuxièmement, mettre en place une véritable direction technique nationale qui aura pour mission de poser les bases d'une réorganisation du football dans tous ses segments. Aussi, l'équipe nationale des Panthères a, dans sa formation actuelle, est dissoute. Nous allons rebâtir l'équipe nationale sur de nouvelles bases en mettant de côté tous ceux qui se sont caractérisés par un manque d'envie, un manque de patriotisme et qui ont plus mis en avant les ressources financières à gagner en oubliant la nation et l'esprit d'équipe.
Alain Claude Billy Binzé, ministre des Sports du Gabon, au micro d'Ismaël Obiangze, notre correspondant à Libreville. Alors, Jules, vous qui êtes sur place, dites-nous comment et pourquoi en est-on arrivé à cette décision, entre autres.
Oui, mais il faut savoir que l'équipe nationale aux abois a dû faire appel par le truchement, et d'ailleurs du plus grand citoyen du pays, à son footballeur vedette des années précédentes, Cousin, pour servir d'électrochoc et pouvoir rassembler les joueurs qui ont beaucoup de respect pour lui et qui, à cause de lui, pouvaient venir alors que les uns venaient, d'autres ne venaient pas. Bon, alors, maintenant, la mission à court terme n'a pas marché. Il est normal qu'on réorganise la maison et qu'on revienne à une position beaucoup plus professionnelle et de la gestion de l'équipe nationale et même du football gabonais en général, puisqu'on fait allusion également à un retour très rapide aux compétitions de jeunes, notamment et les compétitions, disons que, des scolaires. Donc je pense que l'effet Cousin n'a pas marché et donc nous revenons aux fondamentaux du football.
Alors Thierry, dissoudre une équipe nationale, c'est quand même assez fort comme décision, surtout que le ministre demande à la fédération de virer l'entraîneur et son staff. Est-ce qu'on ne pourrait pas tomber sous le coup de l'immixtion que la FIFA ne veut pas entendre parler, bien sûr, dans le football?
Absolument, absolument, Yacouba, c'est à cela que je pensais, dissoudre une sélection nationale simplement parce qu'elle n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. Je ne sais pas s'il ne s'agit pas de mélange des genres. Là. Le ministre des Sports qui pouvait, à mon avis, se limiter à rencontrer la fédération qui est l'instance technique et organiser des réformes et prendre une série de mesures en interne, s'en va jusqu'à annoncer la dissolution purement et simplement de l'équipe nationale. Je trouve ça trop fort comme décision, surtout que j'ai vu ce match et depuis d'ailleurs la Coupe d'Afrique des Nations que le Gabon a organisée en 2017, je trouve que cette génération des jeunes joueurs qui arrivent notamment n'est pas si mauvaise que ça. C'est l'environnement plutôt de l'équipe nationale qui m'a l'air malsain, trop de conflits, trop de pesanteurs, l'affaire Aubameyang qui n'est pas très très bien gérée, bref. Je trouve ça quand même très fort comme décision de la part du ministre des Sports et ça frôle pratiquement l'immixtion. Je ne sais pas comment réagit la fédération, je ne sais pas ce que ça va à produire à la fin, mais je pense que c'est quand même aller trop trop loin cette décision politique du ministre des Sports.
Merci bien. Thierry, alors il n'y a pas que au Gabon où il y a des difficultés. Lionel Messi aussi est sous le feu des projecteurs avec l'Argentine. Et la Pulga est sortie de ses gonds pour dénoncer ce qu'il appelle bien sûr des critiques ciblées contre sa personne. Alors Élisée, vous avez suivi la sortie de Lionel Messi, pas très fréquent dans les médias. Cette fois-ci, la Pulga en a marre.
Oui, véritablement, mais Yacouba, il faut aussi reconnaître que quelque part, les supporters aussi ont leur raison, puisque l'attente est longue, puisque Lionel Messi a gagné presque tout avec son club, le FC Barcelone. C'est vrai que l'homme aussi a gagné les Jeux Olympiques, ainsi que la Coupe du Monde des moins de 20 ans, mais ce n'est pas suffisant. Les supporters veulent le voir soulever le précieux trophée de la Coupe du Monde, puisque Maradona l'a fait. Mario Campes aussi l'a fait. Et des légendes du football argentin l'ont fait. Donc, c'est Lionel Messi, cette fois, Ballon d'Or. Actuellement, la star du football mondial, ainsi que Cristiano Ronaldo. Donc, c'est difficile quand vous avez un tel joueur au sein de votre équipe et que sa peine à remporter un trophée majeur. C'est difficile. Messi a raison. Il doit aussi savoir que les supporters aussi ont raison, puisque pour eux, c'est de leur donner la joie et c'est bien sûr remporter au moins une Coupe
bien.
Du Monde.
Merci bien, Élisée. Alors, Amine, très rapidement, en 30 secondes, peut-être que les supporters et les journalistes aussi qui critiquent Lionel Messi ont la mémoire courte. On se rappelle qu'il a qualifié quand même l'Argentine pour le Mondial 2018 grâce à son triplé face à l'Équateur.
Un triplé qui a été important et puis il les a conduits à la qualification vers le deuxième tour en battant le Nigeria en Coupe du Monde. Mais il y a un courant qui ne passe pas. On a l'impression quand il change de club, quand il passe de Barcelone à l'équipe nationale, qu'il y a un blocage. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus heureux, dans un environnement beaucoup plus propice à Barcelone, et que lorsqu'il vient en équipe d'Argentine, il y a une grosse pression sur lui. Il n'est peut-être pas aussi bien entouré qu'il le souhaiterait, et visiblement,
merci.
C'est une grosse incompréhension.
Merci bien, Amine, vous l'entendez en même temps que moi. Sporama qui s'achève ici à la réalisation Michel Joseph. On se retrouve la semaine prochaine.